Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nicolas Martin pour la méthode scientifique.
Et pour une méthode scientifique, vendredi, fiction. Ouf, ça commence bien. Et si ce matin, vous n'aviez pas oublié les clés de votre voiture sur la table du salon, ce qui vous a forcé à rentrer, hein, forcément les chercher avant de ressortir, ces quelques secondes d'écart ont peut-être changé le cours de votre vie. Et oui, cet enfant qui traverse juste un instant après votre passage, quelques secondes plus tôt, et tout aurait basculé. Mais peut-être cette réalité a-t-elle bien existé ailleurs ? Bienvenue dans le multivers où les univers parallèles, ce matériau littéraire richissime, est exploité depuis bien longtemps par la science-fiction. Il est depuis plusieurs années formalisé par la science, qui n'attend plus qu'une chose, en découvrir une preuve. Multivers, un problème à plusieurs dimensions, c'est le problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer dans cet univers les infinies possibilités ouvertes dans l'infinité d'autres univers, tant en science qu'en littérature, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Aurélien Barreau, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'université Joseph Fourier, chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS, membre de l'Institut universitaire de France et auteur, entre autres, des univers multiples, nouveaux horizons cosmiques aux éditions Dunod. Bonjour Simon Bréant.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en littérature française à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez publié votre thèse, La science-fiction en France, aux presses universitaires Paris-Sorbonne. Vous pouvez, comme chaque jour, eh bien, suivre cette émission sur les ondes, et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et sur Twitter en vous abonnant à notre compte @laméthodefc. Mais avant de nous engouffrer dans ce casse-tête cosmologico-quantico-littéraire, eh bien, elle est là, et c'est l'un des rares points de permanence de tous les univers, chaque vendredi à 16h, pour détailler les derniers soubresauts de l'actualité scientifique de la semaine. Zoé Sfès, bonjour.
Bonjour Nicolas.
C'est le journal des sciences.
Le journal des sciences.
Et on commence ce journal sur cette initiative sans précédent dont vous avez certainement entendu parler cette semaine. Plus de 16 000 scientifiques de 184 pays ont signé un appel paru ce lundi dans la revue Bioscience contre la dégradation catastrophique de l'environnement. Zoé.
Mise en garde des scientifiques à l'humanité, deuxième avertissement, c'est le titre de cet appel, donc paru 25 ans, tout pile après le premier du genre qui avait été lancé, rappelez-vous, en 92, après le sommet de la Terre à Rio, qui avait été signé alors par 1700 chercheurs et plusieurs centaines de prix Nobel. C'était un accueil beaucoup moins retentissant. Ces 16 000 scientifiques, ils étaient 15 000, mais donc plusieurs signatures continuent d'affluer, formulent 13 recommandations et enjoignent les décideurs politiques réunis en Suisse en ce moment pour la COP23 à, je cite, freiner la destruction de l'environnement pour éviter une misère généralisée, une perte catastrophique de biodiversité. L'humanité doit adopter une alternative plus durable écologiquement que la pratique qui est la sienne. C'est l'écologue américain William Ripple qui, avec 7 autres auteurs principaux, a entrepris de faire le point sur toutes les tendances inquiétantes qui avaient déjà été discernées en 92 et qui a pris la mesure de leur aggravation absolument dramatique, à l'exception notable de l'état de la couche d'ozone stratosphérique qui, elle, est en voie de guérison. Et c'est Franck Courchamp, directeur de recherche au CNRS et à l'Institut National d'Écologie et Environnement, qui a diffusé cet appel en Europe.
Cet appel, il a été initié par des écologues aux États-Unis, en particulier Bill Ripple, c'est un Américain de l'Oregon. Donc moi, il m'avait contacté parce qu'on travaille ensemble sur un autre projet. Donc il y a surtout au départ beaucoup d'écologues. Les scientifiques, normalement, ils doivent être détachés de leur objet d'étude. Les écologues, c'est un petit peu plus difficile parce que, à force de voir au fil des années, au fil des décennies, leur objet d'étude tomber en crépitude, à force d'apprendre à leurs étudiants que le temps d'un cours, il y a 50 espèces en moyenne qui ont disparu, de répéter ça jour après jour, c'est quelque chose qui nous permet plus difficilement d'être complètement détaché de notre objet d'étude. Et là, effectivement, on est arrivé à des points où on a vraiment des métriques, des chiffres, des indicateurs qui nous montrent qu'on n'est même plus dans le rouge, on est dans le rouge écarlate et qu'il faut vraiment que la société se réveille. Toutes ces recommandations, il n'y a rien de révolutionnaire dedans. C'est des recommandations qui sont faites depuis des décennies. Mettre en place des réserves, qui soient un peu plus grandes, un peu plus protégées, un peu plus connectées, réduire le gaspillage alimentaire, passer à un petit peu moins de viande, lutter plus contre le braconnage, l'exploitation et le trafic des espèces menacées. Il est trop tard d'un certain point de vue. On est sur une très mauvaise trajectoire. Les dégâts ont déjà commencé à être faits dans plein de domaines, mais par contre, il n'y a rien d'irréversible à grande échelle. Donc, il faut essayer d'agir le plus rapidement possible pour redresser un petit peu ces trajectoires.
Les constats qui ont été dressés dans cet appel sont confirmés par deux autres rapports publiés cette semaine.
Et puisque toujours lundi, le consortium scientifique Global Carbon Project GCP, qui dresse chaque année depuis 2006 le bilan des émissions mondiales de CO2, a publié son rapport annuel qui confirme qu'après 3 années de stagnation, les émissions humaines de dioxyde de carbone sont reparties à la hausse en 2017 et que l'année en cours devrait se clôturer sur un total d'environ 41 milliards de tonnes de CO2 émises par la combustion de ressources fossiles, les activités industrielles, l'utilisation des terres, essentiellement la déforestation, donc sur une augmentation de 2%. Et puis enfin, mercredi, l'Union internationale pour la conservation de la nature a publié, en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle, la liste rouge des espèces menacées en France, 8 ans après avoir édité la première. Et là encore, on observe en un temps très très court, 8 ans seulement, une aggravation dramatique de la situation, comme l'explique Florian Kirchner. Il est chargé du programme Espèces à cette Union internationale de conservation de la nature.
En gros, il y a 8 ans, un quart des espèces apparaissaient menacées ou quasi menacées. Donc c'est des espèces dont la situation est préoccupante à différents niveaux. 8 ans plus tard, au lieu d'un quart, on tombe sur un tiers d'espèces qui se trouvent menacées ou quasi menacées. C'est une progression qui nous inquiète parce qu'elle se passe sur un temps relativement court. Finalement, 8 ans, c'est quand même pas beaucoup. Et bien, on observe qu'en 8 ans, la situation s'est nettement dégradée. Parmi les plus inquiétantes, il y a la situation du bison d'Europe. Le bison d'Europe, c'est un petit mustélidé. Et lui, il était déjà en danger il y a 8 ans. Et en fait, depuis, sa situation n'a cessé de se dégrader. Et il passe aujourd'hui dans la catégorie en danger critique. C'est en fait la plus forte catégorie de menace. Et il est maintenant probablement passé sous la barre des 250 animaux en France. Parmi les menaces très fortes qui apparaissent, il y a tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. Donc, c'est-à-dire le fait qu'on grignote des espaces naturels par l'urbanisation ou par la mise en culture de prairies, par exemple. À côté de l'urbanisation, il y a l'intensification des pratiques agricoles. C'est-à-dire quand on transforme les paysages, qu'on enlève les haies, les bosquets, on fait disparaître plein d'habitats qui sont importants pour le putois d'Europe ou pour le lapin de Garenne. Et ces espèces se trouvent aujourd'hui quasi menacées et en net déclin. Pour d'autres raisons, l'agriculture est un problème quand elle mobilise trop de pesticides. L'utilisation importante de pesticides amenuise les ressources alimentaires des mammifères insectivores. Alors, ce qu'on observait déjà pour les oiseaux des champs et les insectes des campagnes qui sont en déclin, on le retrouve chez des mammifères comme une musaraigne qui s'appelle la crocidure leucode ou une chauve-souris comme la pipistrelle commune. C'est des espèces qui sont également en déclin quasi menacées.
Voilà, et on va vous mettre un lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission, sur une émission que nous avons fait il y a quelques semaines. Existe-t-il une science du pire, ou comment la science peut produire un discours sur les risques d'effondrement systémique qui sont décrits dans ces différentes alertes et dont on vient de vous parler. En bref, maintenant Zoé, les chimpanzés peuvent évaluer un danger et avertir leurs congénères.
Ils sont en effet capables d'indiquer à leurs congénères inconscients du danger, de quelle nature est ce danger et où il se trouve. C'est ce qu'indique en tout cas une étude parue hier dans la revue Science Advances. Et c'est surtout la première fois qu'une expérience montre que des animaux prennent en compte quand ils communiquent le point de vue des autres, une capacité qu'on pensait totalement unique aux humains, expliquent les chercheurs de l'Institut Max Planck.
Un mystérieux accident nucléaire en Russie qui a été détecté en France.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire française a signalé la détection en France et en Europe d'un radionucléide artificiel, le ruthénium-106, à des très faibles niveaux. Et dans son enquête publiée cette semaine, l'IRSN déduit qu'il s'agirait d'un accident nucléaire, mais de nature encore non déterminée, survenu dans les régions du sud de l'Oural, en Russie, donc, sans danger pour l'Europe, mais potentiellement très dangereuse pour les populations riveraines de l'accident. La Russie, elle, nie l'existence du moindre incident.
Voilà, deuxième sujet cette semaine, Michael Gillon reçoit en ce moment même à Berne le prix Balzan, qui est un prix scientifique très prestigieux qu'on estime comme le deuxième prix le plus important après le prix Nobel. Alors, tout est question de perspective, évidemment. Toujours. Mais néanmoins, Michael Gillon reçoit donc ce prix en ce moment pour son travail sur les planètes du système solaire et les exoplanètes. Zoé.
Et oui, cet astrophysicien belge de 43 ans est l'une des figures majeures de l'exoplanétologie, jeune discipline à laquelle il a déjà largement contribué en développant considérablement, notamment, la méthode de détection des exoplanètes, dite du transit, à laquelle on préférait au début des années 2000, fin des années 90, la méthode de la vitesse radiale, et qui lui a permis de découvrir en début d'année un incroyable système de 7 planètes rocheuses, dont 3 qui sont susceptibles de disposer d'eau liquide, baptisée TRAPPIST-1.
quand on a une planète qui passe devant une étoile, on appelle ça un transit planétaire. On peut observer depuis la Terre des transits de Vénus et de Mercure. Alors pour les exoplanètes, on est incapable de voir la planète qui passe devant l'étoile. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que l'étoile nous apparaît un peu moins brillante quand la planète passe devant. Et donc on mesure la brillance de l'étoile et à un moment donné, on va la voir qui descend. Quand la planète est passée devant l'étoile, elle remonte. Et c'est grâce à ça que la plupart des exoplanètes connues à ce jour ont été détectées. Mais de plus, grâce à ce phénomène, on a une porte vers l'étude des atmosphères de ces planètes. Quand la planète passe devant l'étoile, on va avoir une partie de la lumière émise par l'étoile dans notre direction qui passe dans l'atmosphère de la planète et qui va être filtrée par l'atmosphère. Et cette filtration va permettre de déterminer la composition de l'atmosphère et pourquoi pas d'y trouver des traces chimiques de vie, comme par exemple la présence d'oxygène qui pourrait être produite par photosynthèse, la présence de méthane produite par d'éventuelles créatures qu'on appelle méthanogènes. C'est vraiment là-dessus que j'ai concentré toute ma carrière. Le résultat le plus récent et le plus marquant que j'ai obtenu avec mon équipe, c'est la détection des fameux systèmes TRAPPIST, composés de 7 planètes de la taille de la Terre en orbite d'une toute petite étoile proche. Et ces 7 planètes se prêtent vraiment bien à une étude atmosphérique et à une éventuelle recherche de traces de vie.
Et justement, une nouvelle exoplanète vient d'être découverte dans notre voisinage galactique. Elle s'appelle Ross 128b Zoé.
Elle est située à seulement 11 années-lumière de nous et cette planète rocheuse est 35% plus massive que la Terre. Elle orbite dans la zone tempérée de son étoile, Ross 128, donc une naine rouge qui semble plutôt calme puisqu'en 80 jours d'observation avec le satellite Kepler, les chercheurs n'ont pas vu l'ombre d'une seule éruption sur cette étoile. Cette exoplanète exotère a été détectée, elle, par la méthode de vitesse radiale grâce à la précision de l'instrument ARPS qui est installé au Chili.
Les États-Unis autorisent une première pilule connectée.
Lundi, la FDA, l'agence sanitaire américaine, a autorisé la mise sur le marché d'un médicament intelligent capable d'indiquer si un malade a bien ingéré son traitement ou pas. Il a été baptisé Abilify MySight. Il contient une pilule qui délivre une molécule thérapeutique, l'aripiprazole, prescrite dans le traitement de la schizophrénie ou des troubles bipolaires. Cette gélule est équipée aussi d'un capteur de la taille d'un grain de sel qui émet un signal une fois que la gélule s'est dissous dans l'estomac du malade. Ce signal est recueilli par un patch porté par le patient qui transmet via une application smartphone toutes ces informations à son médecin.
Et une petite rectification, cette planète Ross 128b était 1,35 fois plus massive que la Terre, c'est-à-dire quasiment de la même taille et pas 35% plus massive, me semble-t-il. Et pour conclure par notre rubrique de sciences improbables, on vous parle bien de cette mutation génétique chez les populations des Amish qui leur permet de vivre plus longtemps.
Oui, alors on savait, les Amish ont une durée de vie en moyenne plus longue que la moyenne des autres humains. On pensait que c'était peut-être parce que cette communauté religieuse vivait à l'écart de la modernité, sans électricité, sans boire, sans fumer. Mais non, nous révèle une étude parue cette semaine, c'est parce qu'une bonne partie de sa population est porteuse d'une mutation du gène SERPINE1 qui est responsable d'une forte réduction de la production d'une protéine qui s'appelait PAI1, protéine qui semble-t-il joue un rôle non négligeable dans l'artérosclérose, la neurodégénérescence, l'ostéoporose, mais aussi le diabète et l'obésité. Les Amish qui ont cette mutation sont en meilleure santé, ils vivent en moyenne 10 ans de plus. C'est la première mutation génétique humaine qu'on trouve qui a un impact multiple sur les changements biologiques qui résultent du vieillissement. Alors certains pourront regretter que ce cadeau de la nature ait été offert à des gens qui, parce qu'ils mènent une vie sans excès, en ont probablement moins besoin que nous, en tout cas que moi, Nicolas. La bonne nouvelle, dans tous les cas,
de ces considérations.
Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que cette étude confirme le rôle de cette protéine PAI1 et va permettre de développer des essais cliniques sur les humains d'un médicament qui est en développement, qui permet de réduire cette protéine dans le sang. Les souris qui en ont bénéficié ont vu leur espérance de vue multipliée par 4.
Voilà, et en attendant, jusqu'à la semaine prochaine, vous allez vous mettre au régime Amish Zoé, ça fera du bien à tout le monde, surtout à votre organisme.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et depuis le début de cette émission, selon les modèles, hein, soit tout s'est exactement passé comme cela s'est passé. Vous avez écouté le journal des sciences, vous êtes allé vous faire chauffer de l'eau pour un thé, vous avez répondu à un SMS, ou du moins, dans cet univers-ci, dans un certain nombre d'autres, vous êtes mort ou morte ébouillantée, rayée de la surface par un impact de comète. Dans une multitude d'autres, vous n'existiez même pas, et j'en passe. Les univers parallèles ne sont pas qu'une manne pour les littératures de l'imaginaire. Ils répondent aussi à certaines questions que se posent autant les physiciens que les cosmologistes, et remettent en question quelque chose qui les est pourtant chère à nous, humains, l'unicité du monde et l'ordre qui l'organise. Nous parlons donc des multivers avec Aurélien Barraud, physicien et cosmologiste, et Simon Bréant, qui est professeur de littérature et spécialiste de la science-fiction. Pour commencer, peut-être faut-il préciser, Aurélien Barraud, que l'idée d'univers multiple, ce n'est pas une idée contemporaine du tout, c'est une idée au contraire assez ancienne.
Oui, en effet, ça l'est. Elle traverse toute l'histoire de la pensée. On la trouve chez Anaximandre et chez Démocrite en Grèce ancienne. On la retrouve à la Renaissance chez Nicolas de Cuse, chez Giordano Bruno, chez François Rabelais, son frère de cœur français. On la retrouve à la classique chez Leibniz. Et puis ensuite au XVIIIe siècle avec De Fontenelle, où là on mêle en quelque sorte la conversation galante avec la réflexion sur le perspectivisme, jusqu'en philosophie contemporaine avec des investigateurs comme Goodman ou Lewis. Mais si vous le permettez, j'aimerais revenir un instant sur le journal des sciences, parce que c'est évidemment fondamental d'évoquer la dégradation de la planète et même la mort programmée de notre environnement direct. C'est une information majeure à côté de laquelle toutes les autres semblent dérisoires. Et je voudrais mettre ça précisément en perspective du multivers. Mm-hmm. Parce qu'on pourrait se dire, mais après tout, s'il existe une infinité d'autres univers, ce n'est pas si grave. Et je crois que c'est la dernière chose qu'il faudrait se dire. Parce que ça ne change finalement absolument rien que le multivers soit vrai ou ne soit pas vrai. Cette catastrophe est une tragédie sans précédent. Et d'ailleurs, on le sait bien qu'il existe des milliards d'autres êtres humains ne nous consolent jamais de la perte de l'être aimé. Et je crois que c'est exactement la même chose pour notre univers. Et c'est important de rappeler que la pensée scientifique des mondes multiples n'invite d'aucune manière à une forme de laxisme ou de nihilisme quant aux soins que nous devrions porter à ce monde-ci.
À ce monde-ci dans lequel nous vivons, nous-mêmes ici, en tout cas dans lequel nous avons conscience de vivre. Évidemment, on n'imagine pas que l'on puisse se consoler à l'idée qu'il y ait un autre nous dans un autre univers ou dans un univers parallèle qui vivrait mieux ou qui vivrait dans une civilisation qui sait, n'aurait pas détruit la planète sur laquelle elle s'est installée. Mais pour revenir donc à notre question initiale, peut-être aussi un mot en littérature. On va parler évidemment essentiellement de notre conception actuelle du multivers ou des univers parallèles. Mais pour la littérature ou pour les littératures de l'imaginaire, même comme si Aurélien Barraud l'évoquait, on trouve des traces chez Rabelais ou dans la littérature classique. On est encore très très loin de la conception moderne que peut en avoir la science-fiction ou les littératures de l'imaginaire aujourd'hui, Simon Bréant.
Alors, la question des mondes possibles dans la fiction, finalement, invite déjà à se demander si chaque roman, chaque nouvelle, chaque fiction n'est pas déjà en soi, ne dessine pas l'horizon d'un monde possible. Mais pour ce qui est de la thématisation du voyage, puisqu'il est toujours question de voyage dans ces mondes possibles lorsqu'on commence à envisager cette question-là, eh bien, finalement, c'est une thématique qui a commencé à véritablement s'affirmer au XXe siècle, à travers finalement la formalisation d'abord dans des récits de fantasy, je pense finalement des textes comme les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis, de l'idée de monde second dans lequel on puisse se déplacer, hein, finalement, à distinguer de mondes qui seraient finalement autonomes comme les mondes le monde de la Terre des Milieux de Tolkien par exemple. Et mais en fait on peut trouver des traces de cette idée de voyage dans le temps voyage dans l'espace et qui est lié à la question du voyage dans le temps dès les années 30 en fait. Il y a une nouvelle assez fameuse, mais qui n'a jamais été traduite en français, je crois, de Murray Leinster, qui s'appelle Sidewise in Time, qui date de 1934, dans laquelle finalement il y a une rencontre de plusieurs mondes parallèles et d'époques différentes qui commence à se faire de telle sorte que en fait la Terre devient une sorte de croisement de très nombreux univers parallèles et coexistent des versions différentes sur un même espace de terre parallèle. Et à partir, ce premier texte-là, de toute façon, l'exploration n'a cessé de se faire en lien, je le disais tout à l'heure, un petit peu avec la question du voyage dans le temps, parce que finalement, la question des alternatives est souvent reliée en fiction à la question de la façon dont finalement nous aurions vécu par rapport à telle ou telle époque, et on croise la question de l'Uchronie, la question du paradoxe temporel, toutes sortes de questions convergentes. Ceci étant, l'idée à proprement parler du multivers comme, disons, ensemble fictionnel qui dans lequel évoluer et faire évoluer des personnages. On le doit en grande partie à Michael Moorcock, qui a lancé cette idée-là, qu'il a reprenait hein, dans l'air du temps au discours scientifique, mais qu'il a adapté à une conception extrêmement souple, quasiment poétique finalement, qui consiste à envisager la circulation, une sorte d'éternel retour de différents personnages qui sont confrontés dans des cadres spatio-temporels différents à des problèmes similaires.
On va peut-être faire un petit point aussi de taxonomie physique ou cosmologique. Je ne sais pas, vous allez nous le dire, Aurélien Barraud, parce qu'on parle indépendamment ou distinctement de multivers, d'univers parallèles, d'univers multiples. Est-ce qu'on parle de la même chose systématiquement? Quel est le regard que la science porte sur cette notion de multivers?
Mais la science, ça n'existe pas.
Que les sciences, pardon.
Voilà, c'est déjà
les différentes disciplines scientifiques.
Non, mais je pense que c'est ça qui est important dans cette discussion. C'est une pensée de la pluralité et de la pluralité en tant que telle. C'est-à-dire non pas comme un mode transitoire, passager ou quelque chose qui devrait se dépasser par une pensée précise, mais c'est une forme d'acceptation d'une multiplicité structurelle. C'est ça qui a du sens dans cette pensée. Et il est vrai que le terme d'univers ou le terme de monde d'ailleurs est finalement très plurivoque. Et quand on y réfère aujourd'hui, ce n'est jamais son acception latine originelle, donc universus, la totalité de ce qui existe, à laquelle on réfère, puisque la question des mondes multiples serait alors une contradiction dans les termes. Je dirais que si on veut dresser un portrait à gros traits, ce qui fait scientifiquement sens sous le nom d'univers, c'est l'ensemble de ce que je pourrais en principe explorer. Et c'est pourquoi d'ailleurs la possibilité même de voyager entre les univers est impossible, parce que si je peux atteindre ces zones de l'espace, c'est que par définition elles font partie de mon univers.
C'est ça, donc en la rejoignant finalement je l'intègre, et donc je l'intègre à mon univers, donc ce n'est plus un univers parallèle, c'est bien le mien.
Voilà, et donc finalement la question des univers multiples est aussi intéressante en ceci qu'elle nous impose de faire face à la pensée d'une altérité radicale, c'est-à-dire à quelque chose qui est structurellement inaccessible, ce qui pose bien évidemment la question de la légitimité et de la scientificité de cette perception particulière de l'altérité.
On peut se poser, puisque je sais que vous venez de le dire, vous n'aimez pas beaucoup le mot la science ou les sciences, c'est un peu un fourre-tout et ça manque de précision, mais néanmoins vous posez une question, hein, c'est d'ailleurs le titre de l'un de vos chapitres quand on parle de multivers ou d'univers multiples. Est-ce encore de la science? Est-ce que quand on parle aujourd'hui, est-ce que la science ou est-ce que différentes branches de la science ont formalisé de manière sérieuse, ou est-ce que quand on commence à s'attaquer à ces univers multiples, eh bien on commence à faire un pas de côté, à être obligé de sortir un peu de la discipline scientifique stricto sensu?
Je pense que c'est une question très intéressante parce qu'elle cristallise beaucoup de crispations. Ces crispations sont extrêmement regrettables. On voit d'un certain point de vue certains physiciens qui considèrent que c'est une chose entendue. Nous vivons dans le multivers, ce qui est évidemment faux. On voit d'autre part des physiciens qui considèrent que la proposition est not even wrong, vous savez, même pas fausse, tellement bête qu'elle ne serait pas fausse, ce qui est tout aussi ridicule et stupide. D'ailleurs, c'est aussi une question politique. On le voit, on traverse en ce moment un moment de crispation radicale où en quelque sorte l'adversaire devient l'ennemi, où il s'agit finalement de l'humilier davantage que d'entrer dans une véritable conversation d'idées. Et ce que j'aimerais, c'est que l'idée de multivers vienne au contraire apporter un peu de mesure, de nuance et de subtilité dans l'épistémologie. C'est-à-dire qu'elle mette les scientifiques face à leur responsabilité de penseurs et donc interroge ce qu'on attend de la science. Pas ce qu'elle est, parce que ce qu'elle est, on s'en fiche, on peut le changer, elle est dynamique, elle n'est pas figée, elle n'est pas donnée par Dieu. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on veut faire d'elle. Et là, en quelques phrases, il me semble que l'on peut argumenter de façon assez raisonnable en faveur d'une acception scientifique du multivers. Et la raison de cela, c'est que quand bien même ces autres univers ne seraient pas accessibles, ce qui semble rendre la proposition infalsifiable, en réalité, il n'en va pas de tel, parce que le multivers n'est pas une théorie. Si c'était une théorie, ce serait une mauvaise théorie. Mais le multivers est une conséquence de théories. Et les théories en question, qu'il s'agisse de physique quantique, de relativité, de théorie des corps, nous en reparlerons sans doute, sont testables ici et maintenant. Hic et nunc, je peux les mettre à l'épreuve. Si je corrobore ces théories, alors je dois accepter le multivers, c'est une question de cohérence. Si je les infirme, toutes leurs conséquences, y compris le multivers, s'évadent. Et le dernier argument important, je crois, c'est qu'au-delà même de ces considérations épistémologiques, le fait que nous n'ayons qu'un échantillon de cette éventuelle multiplicité d'univers à disposition n'invalide pas la mise à l'épreuve expérimentale. Si nous n'avions eu qu'une seule collision de particules, au grand accélérateur LHC du CERN, bien sûr, nous n'aurions pas vu le boson de Higgs, mais nous aurions quand même pu exclure certains modèles exotiques de physique des particules. Donc le fait que nous ne voyons qu'un seul univers rend bien évidemment le test du multivers difficile, mais c'est une difficulté quantitative et non pas une fracture quantitative, qualitative.
Et on va examiner effectivement les différentes conséquences des théories, comme vous l'évoquiez. On verra qu'il y a des théories qui sont aussi plus solides et plus robustes que d'autres et qui proposent des versions de ce multivers peut-être plus faciles à intégrer ou à apprécier que d'autres qui sont peut-être plus exotiques, une fois de plus. Peut-être un mot, hein, on l'entendait, sur cette suspicion qu'il y a, en tout cas pour le domaine des sciences, à aborder, à intégrer le multivers. Comme souvent en matière de science-fiction ou de récit de l'imaginaire, il y a un accompagnement qui est quasi simultané, c'est-à-dire que les premiers travaux contemporains sur le multivers datent des années 50, les premiers écrits, pareil, vous évoquiez les années 30 tout à l'heure, Simon Bréant, et se précise dans les années 70-80. Est-ce que vous pensez, pour reprendre et pour rejoindre ce que disait Aurélien Barraud, qu'il y a dans le multivers quelque chose, un procédé dramaturgique, une échappatoire salvatrice, parce que elle permet précisément de créer de la dystopie, de l'utopie, de s'échapper de l'iketnung, de l'ici et maintenant, pour permettre d'envisager, de faire des jeux d'esprit qui sont des jeux d'esprit très propres et très agréables à faire en science-fiction.
Alors, à cela, je répondrai deux choses qui sont un peu distinctes dans l'histoire de la science-fiction. Une première chose que j'associerai d'ailleurs à Moorcock, dont je parlais tout à l'heure, c'est l'usage de l'idée de multivers en lien avec la réflexion sur l'Uchronie, et donc l'idée de la plasticité de ce que nos sociétés humaines ont pu construire. Et donc l'idée que le temps n'est pas figé ni dans un sens ni dans un autre, et qu'il n'y a pas de déterminisme à proprement parler. Donc la possibilité de visiter des univers alternatifs dans lesquels les choses se sont passées différemment. Et il y a ça c'est quelque chose qui a été important pendant les années 60, 70, 80, et on pourrait citer également un autre auteur important qui est Roger Zelazny, avec Les Princes d'Ambre, qui envisage toutes sortes de reflets en fait de la Terre, en ne plaçant pas la Terre au milieu, en faisant un monde parmi d'autres. Mais il y a me semble-t-il, depuis les années 2000, tout un courant de mise en scène de la question du monde parallèle qui réfléchit en termes beaucoup plus systématiques, en termes de ce que l'accessibilité signifierait. Et pour prendre rapidement quelques exemples, Charles Strauss a bâti un cycle qui s'appelle le cycle des princes marchands, qui a commencé vers 2004, dans lequel finalement l'existence, l'accessibilité de mondes parallèles devient le point de départ d'un empire commercial, en fait. C'est-à-dire que des individus utilisent de façon asymétrique leur connaissance des transferts pour pouvoir circuler d'un monde à l'autre et accumuler des richesses de cette manière. De manière un peu plus, disons, un peu plus optimiste ou un peu plus ouverte, Terry Pratchett et Stephen Baxter ont fait un cycle qu'ils ont appelé la longue terre. La longue terre étant l'idée que il y a donc une infinité de terres qui sont concomitantes dans un multivers général, et qu'il est possible, alors ils résolvent la question du passage de façon délibérément provocatrice, puisqu'il suffit d'une pomme de terre et de deux électrodes pour passer d'un bout à l'autre. Bon, mais une fois cette question de l'accessibilité réglée par un coup de baguette magique en quelque sorte, il pose de manière extrêmement construite, systémique, la question de ce que signifierait pour des êtres humains s'implanter dans d'autres espaces, ce que ça implique d'un point de vue sociopolitique, dans quelle mesure les nations sont prêtes à l'accepter, ce que ça implique d'un point de vue écologique, dans quelle mesure y a-t-il un droit aux êtres humains à aller détruire d'autres mondes, en quelque sorte. Et d'une manière générale, ça pose aussi une question assez importante qu'on évoquera peut-être, c'est la question du point de vue anthropocentrique, qui est que dans cette version-là, il n'y a qu'une seule Terre dans laquelle l'être humain se soit développé. Et partout ailleurs, jamais il n'est advenu, en fait.
C'est intéressant, cette question de l'anthropocentrisme, parce qu'elle a traversé aussi les réflexions scientifiques autour de la théorie et des questions liées au multivers. Alors, pas de la théorie du multivers, il ne faut pas dire la théorie du multivers, mais en tout cas aux questions de la façon d'envisager ces univers multiples.
Oui, elle est absolument essentielle. Et d'ailleurs, là, je reviens encore un instant sur le Journal des sciences qui a précédé notre entretien. On évoquait cette capacité de certains singes que l'on croyait jusqu'à maintenant réservé à l'être humain. C'est quand même assez fou, finalement, cette manière que nous avons de nous accrocher de façon désespérée et quand même un peu pathétique et grotesque au propre de l'homme qu'on souhaite sauver à tout prix. Et la philosophie, d'ailleurs, que j'aime pourtant si fort, a été particulièrement fautive et, je trouve, rétrograde de ce point de vue-là. Nous le savons maintenant, les mondes animaux sont aussi diaprés, plurivoques, polychromes et délicieux que les mondes humains. Il suffit de les regarder et c'est un peu triste finalement de devoir recourir parfois autant à la science-fiction qu'à la science réelle ou à la science dure, parce que le multivers, il est là aussi. Le multivers, c'est peut-être parfois de s'agenouiller dans une prairie et de savoir regarder les insectes autrement que comme des carapaces répugnantes et de voir que les mondes multiples sont autour de nous. Encore faut-il savoir les regarder et s'en émerveiller.
C'est ce que vous écrivez hein, dans l'épilogue de votre livre des univers multiples, Nouveaux horizons cosmiques. Vous écrivez Aurélien Barreau, ces univers multiples sont une proposition sur le monde, mais ils sont aussi une proposition sur ce que nous attendons de notre science et par-delà, ils sont, me semble-t-il, une invitation à s'énerver de tous ces mondes irréductibles au seul champ de l'astrophysique, les univers de la littérature, de la poésie et des arts, des univers animaux, comme vous venez de le dire, les univers oniriques et symboliques. Est-ce que ces univers, Simon Bréhand, est-ce que la littérature, en tout cas, on voit finalement, la littérature de l'univers, des univers multiples n'est pas tellement une littérature de hard science, c'est pas une littérature très ancrée dans la science-fiction, c'est plus un ensemble de littérature qui fait appel à l'imaginaire, parfois à la science aussi. Chez Zelazny, on va parfois dans le futur et dans des moments où on fait appel au pur genre science-fiction, mais dans l'ensemble, ça transcende un peu plus toutes les littératures de l'imaginaire.
Disons, oui, bien sûr, le principe même de voyager d'un monde à l'autre, une fois qu'on a posé cette idée-là, peut s'envisager de façon extrêmement multiple, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait traverser une armoire et aller dans un monde différent. Bon,
Narnia,
voilà. Mais je dirais que sans forcément effectivement aller jusqu'à la hard science, il y a des manières plus ou moins qui respectent plus ou moins des protocoles scientifiques qui vont pouvoir être envisagées. Mais c'est vrai que très souvent la logique du voyage ne peut pas être décrite, pas plus que H.G. Wells n'a pu expliquer comment marchait sa machine à voyager dans le temps. Il y a un moment, il faut poser cette possibilité il me semble que de ce point de vue-là, je n'ai pas repéré dans le discours scientifique actuel de point d'appui qui serait suffisant pour véritablement complètement nourrir cela. Quand ça intervient, parce que ça peut intervenir, c'est en s'appuyant sur des théories issues de la physique quantique et à ce moment-là, sur du maire général, sur les représentations issues des discussions autour de la relativité, issues autour de la question de l'effondrement des possibles, ce type de choses. Ceci étant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus à ce moment-là utilisé pour expliquer, disons, des manipulations de notre monde que des passages, des transferts de l'un à l'autre.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Magic and evil tricks.
Peter Van Pearl, Broken Skeleton Key, un passe-partout cassé, puisque c'est bien une clé qu'il faut pour essayer de comprendre les univers multiples et peut-être, en littérature, essayer d'accéder à ces différents univers. Alors, on ne parle pas de voyage entre des mondes qui seraient des mondes différents, mais bien d'univers qui sont des variantes de notre univers à nous. Et on va entendre Aurélien Barraud, qui est l'un de nos deux invités aujourd'hui, professeur à l'université Joseph Fournier, physicien cosmologiste et auteur notamment des univers multiples aux éditions Dunod, nous expliquer quels sont les différents modèles proposés d'une part par la mécanique quantique et d'autre part par la relativité générale. Et puis on rediscutera du procédé de littérature et de cette question de la visite et comment les deux peuvent se nourrir avec Simon Bréhand, qui est notre deuxième invité et qui est maître de conférence en littérature française, spécialiste de science-fiction à l'université Paris-Sorbonne. Alors Aurélien Barraud, ces deux modèles de multivers, comment est-ce que d'une part la physique et d'autre part la cosmologie y aboutissent et quels en sont en fait les grands traits?
Alors d'abord peut-être en effet il faut citer un instant l'interprétation dite des univers multiples de Everett en physique quantique. Donc l'idée est assez simple, la physique quantique prédit l'ubiquité, les particules doivent pouvoir se trouver à plusieurs endroits simultanément, dans plusieurs états simultanément. Nous ne faisons jamais l'expérience de ce genre de choses dans le macrocosme, il faut donc qu'il y ait une forme d'effondrement de ce monde quantique, de ce qu'on appelle la fonction d'onde. Et Everett a postulé que peut-être en réalité il s'agissait d'un embranchement en univers parallèle. Alors ça semble étonnant, mais en réalité, du point de vue mathématique, c'est une hypothèse qui est beaucoup plus élégante et qui est même beaucoup plus simple. Il n'y a d'ailleurs pas de critère tout à fait non ambigu de simplicité. La simplicité est toujours quelque part liée à l'élégance, qui est elle-même toujours quelque part contractuelle. Alors, on a longtemps cru que l'interprétation de Everett de la physique quantique était purement métaphysique, ce qui n'était d'ailleurs pas des négatifs, mais on sait maintenant, depuis quelques années, j'ai d'ailleurs moi-même fait un petit article sur la question, un petit travail de recherche, qu'il pourrait être envisageable de la mettre à l'épreuve cosmologiquement. Donc, ce n'est pas simplement une proposition abstraite, c'est aussi quelque chose qui peut avoir une incidence sur notre manière d'appréhender l'univers dans lequel nous vivons. Et le deuxième grand modèle, en effet, repose sur la relativité d'Einstein, elle-même segmentée, dirais-je, en plusieurs sous-catégories. Alors d'abord, pour revenir sur ce que disait Simon Bréhand, je voudrais quand même mentionner que les voyages dans le temps ne posent aucun problème s'il s'agit des voyages dans le futur. Les voyages dans le futur, soit avec les grandes vitesses en relativité restreinte, soit avec les champs gravitationnels massifs, sont tout à fait autorisés par la physique contemporaine et on en fait l'expérience quotidienne avec les particules élémentaires. Mais le lien avec le multivers est un peu plus subtil en effet. Donc d'une part parce que la théorie d'Einstein prévoit qu'il est possible que l'espace cosmologique soit infiniment grand. Et si l'espace est infini, alors les univers entendus comme les sous-zones d'espace qui nous sont accessibles deviennent eux-mêmes en nombre infini. Ce qui là encore n'est pas simplement tautologique, c'est aussi peut-être une manière de réécrire le grand récit. Moi parfois je parle non pas de mythologie mais de logomythologie. Parce que c'est Logos qui est premier ici, c'est la raison qui entraîne, qui engraine presque mécaniquement vers ces espaces invisibles. Et j'aime beaucoup ce renversement de causalité que je trouve à la fois un petit clin d'œil cynique à l'histoire et aux velléités totalisatrices de la science, et puis aussi un petit clin d'œil enchanté finalement au miraculeux qui vient se réinviter dans la partie. Mais la relativité générale intervient aussi avec les trous noirs, parce qu'il est possible, bien qu'aujourd'hui je crois que l'hypothèse manque un peu de véridicité, mais il est possible que les trous noirs soient en quelque sorte des passes vers d'autres univers. Et enfin, et je dirais peut-être surtout, parce que la relativité nous invite à repenser l'origine de l'univers sous la forme d'un scénario inflationnaire. Et dans ce modèle d'inflation, on ne crée pas un univers bulle, mais on crée un foisonnement, une myriade, une sorte d'Yggdrasil, pour référer à la mythologie nordique. Voilà, une sorte d'arbre-monde finalement, dans lequel chaque univers est une sorte de petite coquille, une petite bulle. Et quand on pince un monde, eh bien, on peut faire émerger un autre monde, ce qui va donner naissance à une structure arborescente de monde. Et là, c'est très vertigineux parce que non seulement les lois, non seulement les phénomènes peuvent varier, mais les règles peuvent varier. Ce qui veut dire que la contingence vient faire effraction, en quelque sorte, au cœur de la nécessité. Et ça, je trouve que c'est une nouvelle leçon d'humilité. Et après tout, c'est peut-être toujours de cela qu'il est question.
C'est ça. Et on va voir que la cosmologie nous indique que peut-être on peut penser, on peut imaginer, voir dans le fond diffus cosmologique une anomalie dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle le cold spot, le point froid, qui pourrait peut-être être la trace d'une intersection au tout début de notre univers avec un autre univers bulle. C'est intéressant, Simon Bréhand, quand on entend Aurélien Barraud parler, nous parler d'Yggdrasil, de la mythologie nordique, de l'arbre-monde. On est là, pour le coup, à nouveau, tout à fait dans du récit fantastique, dans du récit de l'imaginaire.
Oui, alors évidemment, il y a un moment où finalement les images mythologiques reprenne sens, effectivement, lorsqu'on essaye d'envisager, de se représenter ce que peut impliquer ce type de théorie. Les représentations les plus courantes dans la traduction visuelle de ces idées de multiplicité de monde, ce sont plutôt des sphères, hein, c'est-à-dire, je pense à des images de bulles, justement, enfin de très très nombreuses bulles d'univers qui s'enchaîneraient les unes aux autres, soit dans des spirales, soit, enfin bon, ce type de représentation, mais en fait c'est très difficile à concevoir, et effectivement le mot métaphysique tout à l'heure avait été avancé, il y a un moment où effectivement les cadres mêmes de l'espace et du temps échappent complètement, de ce point de vue là les écrivains me semble-t-il ne s'aventurent pas forcément trop à spéculer justement sur ces cadres là où ils ne peuvent pas en tout cas en faire le récit à proprement parler, mais justement d'une certaine façon il y a toujours dans cette idée des mondes possibles l'idée de revenir à quelque chose qui est contingent plutôt que nécessaire, c'est-à-dire d'ouvrir les possibilités, mais dans des termes qui sont maîtrisables, qui sont compréhensibles, c'est-à-dire nous donner à voir d'autres états de notre réalité. De ce point de vue-là, d'un point de vue externe, c'est ce qu'on retrouve, je le mentionnais tout à l'heure, avec la question de l'Uchronie, et je peux mentionner ici Le Maître du Haut-Château, très fameux maintenant, roman de Philippe K. Dick, dans lequel, au départ, on peut avoir le sentiment d'être simplement confronté à un monde alternatif, dans lequel les nazis, l'Axe, a triomphé, mais dont il se révèle que finalement, ça n'est qu'un embranchement parmi d'autres. Une des conclusions du roman, c'est que finalement, coexiste avec ce monde-là, notre monde, et sans doute bien d'autres. Ce qu'il relie à une philosophie, justement une philosophie extrêmement, extrêmement ouverte, où on retrouverait probablement des traces de Leibniz outre mesure. Et je voulais simplement réagir sur un aspect qui est que je voulais revenir sur l'idée justement de l'effondrement de la fonction d'onde, qui par contre a pu être mobilisé de façon assez forte et assez rigoureuse. Je pense à un auteur comme Greg Egan dans un roman comme Quarantaine, dans lequel il met en scène des individus qui, d'une certaine manière, arrivent à s'abstraire temporairement de cette logique de défendement de la fonction d'onde et ouvrir pour eux-mêmes le champ des possibles. Mais la question se pose de savoir si, en définitive, un seul univers demeure une fois que la fonction d'onde s'est effondrée, ou si on peut ouvrir une multiplicité d'univers. Greg Egan, me semble-t-il, ouvre la possibilité justement d'un dépassement d'un univers unique à la fin de son roman.
Aurélien Barrault.
Oui, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette idée de donner à voir d'autres possibles. L'historien américain Howard Zinn définissait l'histoire non pas comme le récit toujours un peu arbitraire, artificiel, pour ne pas dire artefactuel, de la présentation de l'enchaînement inévitable des choses, parce que ce n'est pas vrai. Les choses auraient pu être autres. On le voit bien dans l'actualité, et on a envie de se mobiliser pour que les choses soient autres. Et Howard Zinn dit, l'histoire finalement, ça consiste précisément à montrer qu'une autre histoire aurait pu être possible. Et ça, je pense que c'est un message qui est très fort, parce que il convoque à la fois un savoir. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi. Et vous savez, ça, c'est le très fatigant procès en relativisme que l'on fait toujours aux scientifiques qui tentent de penser précisément la dimension qui est pourtant indubitablement construite du savoir scientifique, mais construite à partir d'un réel qui est en effet donné. Parce qu'il y a du non-contractuel, il y a quelque chose qui échappe à la construction sociale, mais il y a une inévitable construction sociale dans notre manière de recevoir, de percevoir et donc de reconstruire cet univers dans lequel nous décidons de vivre et d'exister. Et ça, je pense que c'est exactement ce que la science-fiction peut nous aider à mettre en exergue, mais c'est aussi ce que l'anthropologie peut nous montrer. Moi, je me sens extrêmement proche de Philippe Descola, qui a donc la chaire d'anthropologie du Collège de France, et en étudiant les Indiens Achuar, c'est ça qu'il a compris. Ce qu'il a compris, me semble-t-il, enfin c'est ma lecture en tout cas de son œuvre, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de vivre autrement dans ce monde, ce qui serait presque trivial. Il s'agit véritablement de participer à la création d'un autre monde. Et je crois que c'est ça le niveau le plus profond et le plus subtil du multivers. Ce ne sont pas les mondes multiples de l'astrophysique ni de la science-fiction. C'est de prendre conscience de notre capacité à créer des mondes à travers des systèmes symboliques qui relève d'une utilisation judicieuse de ce matériau mondain, pourrait-on dire, qui est à notre disposition. Pour le dire simplement, on ne peut pas faire n'importe quoi, et donc le critère de vérité existe évidemment, mais pour autant, nous jouissons quand même d'une liberté qui est presque démiurgique finalement de notre invention d'univers.
Alors pour revenir dans l'univers de la fiction, on va écouter un extrait. Alors c'est un extrait qui est, je vous le signale, en anglais parce que le film n'a pas été traduit français, donc exceptionnellement nous vous diffusons cet extrait en anglais, mais c'est un extrait que nous souhaitions vous diffuser parce que c'est un film passé inaperçu qui doit se trouver assez facilement aujourd'hui en DVD ou en vidéo casque ou en VOD sur internet, qui s'appelle Cohérence, de James Ward Birkitt, et c'est un film qui s'appelle Cohérence précisément parce qu'il fait référence au principe de décohérence quantique, et il raconte l'histoire du passage d'une comète très près de la Terre. Le passage de cette comète est tellement proche qu'il va casser donc le principe de cohérence quantique, et d'un seul coup un dîner d'un groupe d'amis se retrouve en fait plongé dans le noir et confronté à d'autres formes d'eux-mêmes, à d'autres formes de réalité, donc à un principe de décohérence. Écoutez cet extrait.
The numbers that I remember from the box that was brought here from the other house are these numbers. But these are the numbers that I found here in this notepad. And I just ask everyone if they can remember their number. Beth and Lee are from this house originally because they have never left. But the rest of us, we are not from this house. We are visitors. Which means that this Lee is not your wife. Are you with me? Well, there's more. Because Hugh and Amir are from a third house. He just showed me his phone. It's not cracked. Remember that dark area that we walked through? I have a feeling that whoever walks through that is like they end up in the middle of a roulette wheel. And they will just end up somewhere by chance. And whoever walks through there will not return to the house that they just left. And I think that we need to find our way back to our house before the comet passes, because once it passes, we might just be stuck exactly here, wherever we are.
Voilà, extrait du film Cohérence de James Ward Birkitt. Alors si vous n'êtes pas fluent en anglais, je vous explique que l'héroïne se rend compte à ce moment-là parce que via un système de codes, de numéros, que ses amis ne sont qu'à part à part l'ami avec lequel elle parle, elle se rend compte que ses amis ne sont pas seulement d'une autre réalité, mais qu'en fait toutes les réalités sont mélangées et que plus personne n'a rien à voir en fait dans ce groupe qui est devenu complètement incohérent ou décohérent pour en parler. Or il est bien évident, et on en parlait tout à l'heure, Simon Bréant, que la possibilité du troc, de l'échange est au cœur de l'écriture de la science-fiction, en tout cas de l'écriture de l'imaginaire des multivers. Et si je pouvais revenir en arrière, et si je pouvais changer cette action et être un autre moi ?
Alors, il me semble que ce que ce film introduit de façon assez forte, c'est l'idée alors du trouble de l'identité, mais également l'idée alors très ancienne dans la littérature fantastique, mais l'idée du double et du problème posé par le double, le double de soi-même, avec cette particularité que ce double ici est vraiment vécu comme invasif, comme quelque chose qui vient d'autre part et qui n'est pas simplement, disons, une production comme un clone qu'on éventuellement pourrait rationaliser plus facilement. Et de ce point de vue-là, il y a eu vraiment, il y a un jeu important, et je crois peut-être plus dans la culture audiovisuelle que dans la littérature, sur cette idée du double, parce que ça permet de recycler des acteurs, et ça permet de jouer sur des effets visuels assez forts. Et je pense ici à deux séries qui sont assez frappantes de ce point de vue-là, qui est la série Fringe, qui a beaucoup joué sur la question des univers parallèles et qui a présenté avec des filtres de couleurs différents, enfin bon, en jouant sur des effets visuels, des états différents de notre monde, et confronté des visions de personnages, bon voilà, et de manière beaucoup plus ludique mais extrêmement frappante et parfois assez subtile, la série Rick et Morty, qui est une série animée
plutôt humoristique
qui en fait est une série de méta-science-fiction, c'est-à-dire qui joue sur les clichés de la science-fiction mais qui en même temps y intègre des états de la science, me semble-t-il, assez contemporains, et qui très vite enchaîne l'idée que il y a des mondes multiples, qu'on peut y aller, et dans ces mondes multiples, et bien forcément les héros ne cessent de se rencontrer eux-mêmes, mais sauf qu'ils se rencontrent eux-mêmes dans une perspective extrêmement agressive, ils ne cessent de se piéger les uns les autres. Et en fait, dans un vertige logique qui fait que le spectateur lui-même ne sait plus vraiment qui sont les personnages, d'où ils viennent, et bon, Et en même temps, ce qui est tout à fait frappant dans cette série, c'est qu'il y a l'idée de l'acceptabilité également. C'est-à-dire que les personnages, et le spectateur aussi, en viennent à accepter les différents points d'appui dont ils disposent. Et finalement, il y a cette confiance qui est quand même assez frappante dans l'idée que l'esprit humain est capable de s'adapter à peu près toutes les situations et que le vertige logique que procure la contemplation des mondes multiples, finalement, peut se transformer en une forme de zapping d'une chaîne de télé interdimensionnelle à une autre.
comment peut-on comprendre, Aurélien Barreau, qu'il serait théoriquement, effectivement, soit via la théorie d'Everett, soit via la théorie de l'inflation éternelle, ou la théorie, le modèle, disons, relativiste du multivers, comment peut-on comprendre qu'il serait théoriquement envisageable que nous ayons en effet vous, moi, nous tous, des doubles infinis, si on prend la théorie d'Everett, hein, puisqu'à chaque observation, à chaque instant, de nouveaux univers sont créés, ou des doubles plutôt dans des univers bulles pour les théories cosmologistes.
Soyons multiples comme l'univers, écrivait le poète Fernando Pessoa. Et c'est un peu de ça qu'il est question, finalement. Ce que, en effet, nous sommes en train de comprendre, c'est que même sans recourir à la physique exotique et donc sujette à caution, parce que je pense que c'est quand même important de hiérarchiser la crédibilité de nos savoirs ou de nos suspicions ou de nos suppositions, donc même avec la relativité et en effet son espace possiblement infini, nous devons non seulement songer à l'existence d'une infinité de doubles de nous-mêmes, mais même finalement à une infinité d'univers qui serait exactement identique au même, avec les mêmes passés, mais pas forcément les mêmes futurs. Ce qui d'ailleurs est très intéressant philosophiquement, parce que ça pose même la question de l'égologie, c'est-à-dire du fait de dire « je ». Que veut dire « je » à partir du moment où déjà au niveau classique, il y a une sorte de perte de causalité, c'est-à-dire que je ne peux pas savoir, même si je suis Dieu, dans lequel de ces univers je me trouve. Et tous ces univers qui ont les mêmes passés n'auront pas forcément les mêmes futurs parce que les objets physiques qui vont entrer dans leur sphère causale ne seront pas les mêmes. Donc il est vrai que c'est un peu fou, c'est un peu vertigineux, mais ça a quand même un sens scientifique très clair parce que ça va changer la manière de mettre à l'épreuve une théorie même dans ce monde-là. C'est-à-dire que si je veux tester un modèle, le fait de tenir compte de cette possible, restons prudents, hein, c'est très important d'être prudent, c'est ce dont on manque aujourd'hui, de cette possible métastrate de diversité va changer de façon drastique le niveau de confiance auquel je vais évaluer ce modèle. Donc pour le dire très clairement, ça veut dire que même pour mettre en œuvre une investigation de type scientifique ici, le fait d'intégrer ou non cette diversité prédite par les théories que nous utilisons va infléchir notre manière de tester une théorie. Donc c'est pas simplement une proposition de nature métaphysique. Mais je voudrais quand même revenir un instant sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la falsifiabilité, c'est-à-dire le fameux critère popérien de démarcation entre ce qu'est la science et ce qui ne l'est pas. Je crois quand même qu'il ne faut pas être trop frileux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, bien évidemment. Mais pour autant, il serait regrettable d'enfermer la pratique scientifique dans ce qu'elle fut à un certain moment de son histoire. Tous les champs disciplinaires se transforment de l'intérieur. Bien évidemment, la musique de Schoenberg n'obéit pas aux règles du système tonal de Rameau et les sculptures de Rodin ne sont pas celles de la Renaissance ou de Praxitèle en Grèce ancienne, et bien évidemment la peinture de Malevitch n'est pas celle de la Renaissance. Et par conséquent, je crois qu'il serait tout à fait contre-productif de vouloir enfermer la science dans ce qu'elle a été. Elle est une démarche qui se transforme de l'intérieur, et si aujourd'hui les physiciens ressentaient le désir de jouer avec les linéaments de leur propre discipline, il y aurait quelque chose de l'obscurantisme à les en dissuader a priori.
Et pourtant, Alexander Vilenkin a interrompu ses recherches précisément sur l'inflation éternelle en disant « mais quel but à courir après quelque chose qui, de toute façon, ne sera jamais observable, ne pourra jamais être quantifié, observé et dont on ne pourra jamais obtenir de preuves. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer malgré tout à avoir des démarches prospectives, qu'il s'agisse de physique quantique, de cosmologie sur les univers multiples, ou est-ce que c'est une impasse épistémologique?
Mais nous, de toute façon, jamais de preuves d'aucune théorie, quelle qu'elle soit. Ça, c'est toujours vrai en sciences de la nature. Donc ensuite, c'est une question de niveau de crédibilité, c'est une question d'attente. Que Alexander ait changé de champ de recherche, c'est tout à fait légitime. Ce qui est illégitime, c'est d'imposer à tous une vision étriquée de ce qu'est la pratique scientifique. Le critère de Popper, c'est trop ou trop peu. C'est trop parce qu'on a toujours cru que toutes les théories scientifiques seraient infalsifiables, et l'histoire nous a très souvent démontré que c'était inexact. Mais c'est aussi finalement trop peu, parce que si je prédis que d'ici la fin de cette émission qui approche, vous allez être transpercé par une météorite, c'est donc scientifique puisque c'est falsifiable. Et pourtant, cette théorie n'a aucun intérêt. Donc le critère de Popper ne suffit pas à établir la portée d'une théorie. Ce qui compte, ce n'est pas d'être vrai ou d'être faux parce qu'on ne le sait jamais. A priori. Ce qui compte, ce n'est pas d'être scientifique ou de ne pas l'être, ce qui compte, c'est d'avoir du sens et donc, là encore, de contribuer à la création d'un univers, non pas au sens des mondes multiples de l'astronomie, mais au sens de la construction d'un système symbolique qui nous aide à comprendre et à créer notre environnement.
Simon Briand.
Alors, j'ai un exemple me vient en écoutant cette question de pourquoi poursuivre quelque chose qui n'aurait pas de but vérifiable possible. Et cet exemple assez frappant, c'est qui nous permet de revenir au sujet initial de tout à l'heure sur la question de l'écologie. C'est un paysage du temps de Benford dans lequel des scientifiques dans un avenir parallèle au nôtre actuellement, mais sont face à une crise écologique, un effondrement du système écologique, et ils cherchent à envoyer, avec des tachyons, un signal vers le passé pour essayer de changer le passé. Donc, pour le coup, c'est très hard science, parce que on a vraiment des considérations très précises pour l'époque, en tout cas, sur ce que c'est qu'un tachyon, comment l'envoyer, bon voilà. Et l'aboutissement de ce roman, c'est le fait que, effectivement, un nouveau monde a été possible et que des choses ont été changées. Ça peut paraître extrêmement optimiste, sauf que parallèlement, le roman nous donne à voir l'état qui est demeuré, un état d'effondrement pour les scientifiques qui ont envoyé le signal au départ. C'est-à-dire que eux ont créé par leur action un autre monde. Cet autre monde est meilleur que le leur, mais jamais ils n'auront la moindre, puisque les tachyons ne fonctionnent ici que dans un seul sens, ils n'auront la moindre confirmation d'une quelconque efficacité de leur activité. Ce qui veut dire que en pratique, eux ont fait un acte de foi en quelque sorte. Cet acte de foi a permis qu'ailleurs d'autres se créent un monde alternatif, mais il n'y a pas de vérification pour autant. Mais ils sont décrits tout de même comme satisfaits d'avoir fait cela.
C'est amusant parce que vous utilisez le terme hard science précisément pour évoquer le seul modèle, je crois, dans tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, qui est quand même essentiellement scientifiquement impossible, au moins, à mon avis. Mais je comprends que ce dont il était question, c'était de la précision et non pas de la crédibilité. Moi, je crois que finalement, trouver des alternatives, imaginer des alternatives, c'est le rôle de la pensée en général. Et finalement, ici, il y a un décloisonnement fondamental qui est à l'œuvre. Une fois de plus, ce qui manque en ce moment. Nous sommes les héritiers d'une tradition philosophique que je crois essentiellement fondée sur une sorte d'alternative dialectique entre Leibniz et Kant. Donc d'une part, le grand ordre divin, pourrait-on dire, avec Leibniz, et d'autre part, la raison humaine qui vient supplanter la supervision divine avec Kant. Ceci a très bien fonctionné, à la fois au niveau philosophique et au niveau épistémologique, et bien sûr au niveau scientifique. Peut-être le temps est-il venu d'apprendre à tenter de penser dans une forme de pluralité qui, jusqu'à maintenant, avait quand même constitué une sorte de phobie, aussi bien pour la pensée scientifique que pour la pensée mythique. Y a-t-il quelque chose à extraire de ce chaos possible, en quelque sorte ? Moi, je pense que c'est une question qui est hautement signifiante dans les temps troubles que nous traversons, à condition, là encore, bien sûr, de la considérer avec nuance et de ne pas plonger trop vite et pas trop intégralement dans cet enfer. Réussissons là où Orphée avait échoué. Revenons de l'enfer.
Sans nous retourner, évidemment, Simon Briand, est-ce que, pour conclure, la littérature, finalement, la dialectique littéraire qui est autour de ces univers multiples n'a pas été épuisée, n'est pas aujourd'hui un recours facile, un recours qui laisse un champ des possibles, un champ dramaturgique relativement fermé et dont on trouve qu'il peut s'épuiser, en tout cas narrativement relativement vite.
Alors, je crois que la science-fiction est encore en mesure d'offrir des exemples neufs de ce que Aurélien Barraud appelle de ses voeux, c'est-à-dire l'idée de véritablement de nous amener à considérer le monde différemment, même si les écrivains sont tributaires des représentations de leurs époques.
Les scientifiques aussi.
Bien sûr. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a à la fois une tentation de la redite chez un certain nombre d'écrivains, mais d'un autre côté, il y a véritablement la possibilité de faire à chaque fois quelque chose de nouveau grâce à ce type de thématique, parce que c'est un cadre beaucoup plus que un programme.
Merci beaucoup Simon Bréhand, la science-fiction en France aux presses universitaires Paris-Sorbonne. Merci beaucoup Aurélien Barraud, des univers multiples, nouveaux horizons cosmiques, c'est aux éditions Duno. Et merci beaucoup à vous tous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, plus d'1 150 000 podcasts le mois dernier, plus 60% d'auditeurs en plus en direct en un an. Vous nous aimez beaucoup, on vous aime aussi, ça tombe bien. Merci d'être à l'écoute de la méthode scientifique. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique aujourd'hui. Thomas Nassim Ben à la technique, Elisabeth Gornescoto au droit d'auteur. Dans quelques instants, ce sera le magazine de la rédaction « Quand les mineurs africains sont abandonnés dans la montagne ». C'est un documentaire de Raphaël Kraft. Tout à l'heure, dans le club du Grain à Moudre, Hervé Gardette se demandera avec son club d'invités du vendredi si Mediapart Charlie Hebdo et c'est une caricature de débat. Et puis pour ce qui nous concerne, lundi, nous parlerons des 40 ans de la génomique, mardi de l'atmosphère, mercredi, peut-on se passer des animaux de laboratoire ? Jeudi, l'ANR doit-elle être réformée ? Vendredi, table ronde d'actu. On se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.